Épître aux Romains, chapitre 10.
Lecture de la parole. Frères, le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Car, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Car Moïse décrit la justice qui vient de la loi, l'homme qui aura pratiqué ces choses vivra par elle. Mais la justice qui est sur le principe de la foi parle ainsi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est à savoir pour en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est à savoir pour faire monter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons, savoir que, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car du cœur on croit à justice, et de la bouche on fait confession à salut. Car l'Écriture dit, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus, car il n'y a pas de différence de juif et de grec, car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Selon qu'il est écrit, combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Ainsi la foi est de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, certes, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Mais je dis, Israël n'a-t-il pas connu? Moïse le premier dit, je vous exciterai à la jalousie par ce qui n'est pas une nation. Je vous provoquerai à la colère par une nation sans intelligence. Mais Ésaïe s'enhardit tout à fait et dit, « J'ai été trouvé de ceux qui ne me cherchaient point, et j'ai été manifesté à ceux qui ne s'enquéraient point de moi. » Mais quant à Israël, il dit, « Tout le long du jour, j'ai étendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant. »
Lecture de l'étude. L'apôtre continue dans ce chapitre à s'occuper de la même question. Si la masse du peuple juif avait encouru le jugement, et si seul un résidu de ce peuple, avec les croyants d'entre les nations, devait être béni, un rejet définitif d'Israël était-il peut-être dans les pensées de Dieu? Avait-il rejeté tout à fait son peuple? Ce n'est que dans le chapitre suivant que l'apôtre répondra en détail à cette question. Ici, comme au commencement du chapitre 9, il parle d'abord de sa propre position vis-à-vis de ce peuple. La gravité des voies de Dieu envers Israël n'avait en rien étouffé ses sentiments pour ses frères. Au contraire, elle avait éveillé dans son cœur une ardente supplication pour eux, une supplication à Dieu pour qu'ils soient sauvés. L'amour ne s'aigrit pas. Il cherche toujours des motifs qui atténuent la culpabilité, et ainsi il agit en accord avec Dieu, qui tout le jour étend sa main vers un peuple rebelle. Ésaïe 65, verset 2.
J'ai étendu ma main tout le jour vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie qui n'est pas bonne, après leur propre pensée.
Frère, le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance, versets 1 et 2. Ainsi, ce n'était ni l'incrédulité, ni la méchanceté que l'apôtre présente comme la cause de leur triste état. Non, l'amour reconnaît dans leur conduite du zèle pour Dieu, mais qui n'était pas selon la connaissance, et c'est précisément ce zèle qui faisait ressentir davantage à l'apôtre son amour profond pour eux, car, ignorant la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, verset 3. Combien merveilleuses sont les voies de l'amour! Quelle tendresse, quelle fidélité! Toutefois, ici l'apôtre va un pas plus loin qu'à la fin du chapitre précédent. Il avait dit qu'Israël avait poursuivi en vain la justice. Ici, il nous dit qu'ils n'ont pas connu la justice de Dieu et ne s'y sont pas soumis. Nous nous sommes déjà occupés en détail de la justice de Dieu, le grand sujet de notre épître, dans les chapitres précédents, de sorte que je n'ai qu'à répéter brièvement ceci. Cette justice s'est manifestée en ce que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, l'a couronné de gloire et d'honneur, et nous a donné à lui, comme fruit du travail de son âme, pour que ce résultat soit acquis. Christ a dû être fait péché pour nous à la croix, et Dieu a été pleinement glorifié quant à lui-même à l'égard du péché et des relations de l'homme pécheur avec lui. Nous nous souvenons de cette parole, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. » 2 Corinthiens 5, verset 21. Les Juifs, en cherchant à établir une propre justice humaine, avaient démontré qu'ils étaient complètement ignorants de la justice de Dieu et ne s'étaient pas soumis à elle. S'appuyant sur une religion de la chair, sur les privilèges extérieurs du peuple terrestre de Dieu, ils fondaient leurs espérances sur leurs propres mérites et rejetaient ainsi le seul moyen par lequel le Dieu juste peut sauver et justifier le pécheur perdu. L'homme insensé qui cherche la gloire se plaît à poursuivre sa propre justice, il se couvre de ses propres haillons au lieu d'accepter avec soumission et avec reconnaissance la robe de la justice divine que Dieu lui offre. Car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant, verset 4. Christ a mis fin une fois pour toutes à la loi comme moyen d'obtenir la justice. La foi du croyant lui a été comptée à justice. Jusqu'à ce que le Fils, Christ, vint établir la nouvelle relation avec Dieu, fondée sur la foi justifiante en lui, jusqu'à sa venue, le conducteur ou le tuteur était absolument à sa place pour tous ceux qui étaient confiés à ses soins. Galates chapitre 3 et chapitre 4. Or, après que Christ eut remplacé la loi et eut pris sur lui la mort et le jugement qui devait être notre part selon la loi, il est devenu pour tous ceux qui croient en lui justice et sainteté et rédemption. Quel changement! La justice sur le principe de la foi en Christ a pris la place de la loi. La mort de Christ a mis fin au principe de la responsabilité de l'homme dans la chair vis-à-vis de Dieu. La loi n'a pas perdu et ne peut pas perdre sa valeur comme telle, mais elle ne peut plus être maintenue comme règle de justice pour l'homme. Naturellement, la loi ne connaît rien de la foi. Moïse décrit la justice qui vient de la loi ainsi, « L'homme qui aura pratiqué ces choses vivra par elle », verset 5. La loi ne connaît que faire, accomplir ses commandements, et c'est la justice. Car la loi est sainte, et le commandement est saint, et juste, et bon. Chapitre 7, verset 12. Tout homme est tenu de garder les commandements de la loi, et quiconque en transgresse un seul d'entre eux, transgresse toute la loi, et mérite la mort. Combien différent est le langage de la justice qui est sur le principe de la foi. L'apôtre le développe en détail. Il s'appuie sur un passage du Deutéronome. Tout d'abord, dans les chapitres 28 et 29 de ce livre, Moïse annonce au peuple d'Israël quelle riche bénédiction l'Éternel fera venir sur eux s'ils obéissent attentivement à sa voix, mais aussi quels sérieux jugements les atteindront s'ils ne prennent pas garde d'accomplir tous ses commandements et toutes ses ordonnances. Nous connaissons l'histoire d'Israël. Le peuple n'a pas obéi à la voix de son Dieu. Il a perdu son pays par suite de sa désobéissance et il a été dispersé parmi les peuples de la terre. Puis, au chapitre 30, Moïse dépeint d'un coup d'œil prophétique ce que la miséricorde de Dieu fera quand une fois la grâce les aura ramenés à se repentir. L'accomplissement de la loi n'est pas possible pour Israël dans un pays étranger, mais malgré cela, les ressources de la grâce ne sont pas épuisées. Si le peuple retournait à l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme, verset 10, il aurait part au pardon et à la bénédiction, non pas à cause de sa conduite, mais sur le terrain de la foi. Les voies de la grâce de Dieu, cachées autrefois, devaient s'accomplir à leur égard. L'Éternel prendrait de nouveau plaisir en eux, pour leur bien, car ce commandement que je te commande aujourd'hui n'est pas trop merveilleux pour toi, et il n'est pas éloigné. Il n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera pour nous dans les cieux et le prendra pour nous, et nous le fera entendre, afin que nous le pratiquions ?» Et il n'est pas au-delà de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous au-delà de la mer et le prendra pour nous, et nous le fera entendre, afin que nous le pratiquions ?» Car la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la pratiquer. Deutéronome 30, versets 11 à 14. Israël s'est éloigné de Dieu, mais malgré tout il peut revenir à lui. Le commandement n'est pas trop merveilleux, ni trop éloigné de lui. Ils n'ont pas besoin d'aller le chercher au ciel ou au-delà de la mer. Il est tout près d'eux, dans leur bouche et dans leur cœur. Sur le terrain de la loi, certes, ils n'ont que le jugement comme part, mais sur le terrain de la grâce et par la foi, il y a encore de l'espoir pour eux. Malgré leur infidélité, malgré la loi violée, la bonté de Dieu s'adressera encore à eux, aussitôt que leur cœur reviendra sincèrement à lui. Or, pourquoi Dieu peut-il agir de cette manière? Parce que ses yeux contemplent toujours Christ, dont la personne se trouve cachée sous l'ombre de la loi. C'est en lui, le juste, qu'il y a espoir pour Israël, si même il est éloigné de son pays, du temple et de l'autel, et récolte le fruit de son péché. Or, la parole qui sera près du résidu d'Israël à la fin, c'est, comme l'apôtre le dit au verset 8, la parole de la foi qu'il prêchait. En la mettant en rapport avec les communications de Dieu au jour de Moïse, il donne à la lettre sa vraie signification spirituelle. Voir 2 Corinthiens 3, verset 6.
Dieu, qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Il écrit, la justice qui est sur le principe de la foi parle ainsi, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est à savoir pour en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est à savoir pour faire monter Christ d'entre les morts, versets 6 et 7. Pour l'homme, ces deux choses sont impossibles, et si même il pouvait les faire, il ne satisferait pas plus à la justice de Dieu qu'il ne répondrait à ses propres besoins. Non, la plénitude de la grâce seule pouvait intervenir. Le Père devait envoyer le Fils, et la gloire du Père devait le ressusciter d'entre les morts. Dieu soit loué, ces deux choses ont été faites, et l'Évangile nous en donne connaissance. La justice, sur le principe de la foi, dit, en effet, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons, savoir que, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, versets 8 et 9. Sauvé, non pas seulement ayant part au pardon, mais pour toujours et éternellement sauvé. Chapitre 5, verset 10.
Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
Il n'y a pas à faire de grands efforts ou de vastes préparatifs ou des voyages pénibles pour trouver Christ. La parole de la croix est prêchée à tous gratuitement. Elle nous est, pour ainsi dire, apportée à domicile. La seule question qui se pose est de savoir si nous voulons la recevoir ou non avec foi. Il n'y a pas besoin de grande intelligence ou de qualités et de capacités éminentes pour confesser de la bouche Jésus comme Seigneur et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Même les plus simples, les plus faibles peuvent le faire. Cela leur est même plus facile qu'aux êtres doués et intelligents. Pour être sauvé, il n'y a pour chacun qu'un seul chemin, celui que l'amour de Dieu a préparé. « Je suis le chemin, » dit Jésus. Ce n'est pas un chemin entre plusieurs, c'est le seul chemin. Bienheureux celui qui a pris ce chemin-là. Remarquons les deux choses nécessaires nommées ici, la confession et la foi. Au verset 9, la confession est nommée en premier lieu, non qu'elle soit la plus importante, mais bien parce que c'est elle qui contribue le plus à la gloire du Seigneur Jésus. Il va sans dire qu'une simple confession des lèvres, sans vraie foi du cœur, n'a aucune valeur. Elle ne fait qu'augmenter la responsabilité de l'homme. C'est pourquoi l'apôtre ajoute, transposant les deux choses au verset 10, « Car du cœur on croit à justice, et de la bouche on fait confession à salut. » La foi du cœur doit précéder la confession de la bouche. L'homme doit être réveillé de son sommeil de mort. La parole de Dieu, opérante et vivante, doit accomplir dans l'âme, par l'opération du Saint-Esprit, un travail de conviction et de purification avant que l'âme crie vraiment à Dieu. Ses regards se dirigent alors sur la croix. Elle entend et saisit par la foi le message de rédemption. Non seulement Jésus est mort pour elle, mais aussi il a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, et en croyant du cœur à justice, elle apprend à connaître Christ comme celui qui a passé par la mort, mais qui vit maintenant à la droite de Dieu. Il est la fin de la loi pour justice à tout croyant. L'âme peut alors, avec reconnaissance et avec joie, le confesser de sa bouche à salut. Comment à salut? N'est-ce pas par le fait que toute confession de son nom, qui est fondée sur la foi du cœur, produit et augmente la joie intérieure, le bonheur du cœur? La foi se manifeste par une telle confession, elle prouve ainsi sa sincérité et est ainsi à nouveau vivifiée et fortifiée. Aussi longtemps qu'une âme craint de confesser Christ comme son Seigneur, aussi longtemps qu'elle hésite à se mettre de son côté, elle reste craintive et inquiète. Plus d'un croyant a dû faire l'expérience que ce n'est que par une confession ouverte du nom de Jésus qu'une vraie joie et une vraie assurance du salut sont entrées dans son cœur. Or, afin que personne ne s'occupe de la question de savoir s'il possède la vraie foi ou une foi suffisante, comme nous le faisons si facilement, en cherchant en nous-mêmes, dans nos sentiments, dans notre amour, etc., une base de salut, l'apôtre ajoute, car l'Écriture dit, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Oui, Mon lecteur, la chose est ainsi écrite. C'est pourquoi quiconque a reconnu, dans la lumière divine, sa ruine naturelle et a mis son refuge en Jésus, peut être assuré de son salut. Ce dernier ne repose pas sur quoi que ce soit qui soit en moi ou de moi, mais uniquement sur l'œuvre de Christ et sur le témoignage de Dieu. Il repose donc sur une base solide. Or, s'il en est ainsi, si cette merveilleuse bénédiction appartient à quiconque croit en Jésus, elle doit être nécessairement pour tous les hommes, soit juifs ou grecs, car il n'y a pas de différence de juifs et de grecs, car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent, verset 12. L'apôtre avait-il tort, comme les juifs le déclaraient, d'annoncer à tout le monde l'heureux message de Jésus? Non, car déjà les Écritures de l'Ancien Testament justifiaient, comme nous l'avons vu, son service, et combien plus encore le témoignage du Seigneur lui-même. Il est beau de trouver ici la même expression qu'au chapitre 3, « Il n'y a pas de différence ». Là, nous lisions, « Il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Ici, « Il n'y a pas de différence de juifs et de grecs, car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent ». Si, dans le premier cas, la cause du « il n'y a pas de différence » est sérieuse et accablante, dans le second cas, par contre, elle est magnifique et édifiante. La riche grâce révélée dans l'Évangile se répand, effaçant toutes les conséquences du péché, sans distinction, sur tous ceux qui se tournent vers Jésus le Seigneur. Une citation du prophète Joël concernant les jours dans lesquels tout Israël sera sauvé termine le paragraphe « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » verset 13. Dans ces jours-là, les habitants de Jérusalem ainsi que les Israélites croyants, dispersés sur toute la terre, porteront, comme les heureux objets de cette riche grâce, la bonne nouvelle de la paix, partout, et ainsi s'accomplira la parole du prophète Ésaïe, « Combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent, évangélisent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses », verset 15. Heureusement, toutefois, que ces courants de bénédiction ne couleront pas seulement à ce moment-là. Le Saint-Esprit applique ce passage d'Ésaïe 52, en laissant de côté la fin de la phrase qui dit à Sion, ton Dieu règne, déjà à nos jours, dans l'intervalle de temps dans lequel l'assemblée, l'épouse de l'agneau, est rassemblée d'entre tous les peuples de la terre. Tous ceux qui appartiennent à cette assemblée privilégiée doivent être amenés aussi à la prédication de l'Évangile en invoquant le Seigneur. Car, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Versets 14 et 15. Sous la loi, l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance, ne permettait pas que de tels messagers de paix visitent les peuples de la terre. Colossiens 2, verset 14.
Ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous était contraire, et il l'a ôtée en la clouant à la croix.
Israël ne deviendra un peuple missionnaire que quand il apprendra à connaître pour lui-même la grâce de Dieu qui apporte le salut en celui qu'il a frappé à la croix. Lorsque la lumière de la grâce brillera un jour dans ses cœurs obscurs, les messagers d'Israël, les frères du Seigneur, Matthieu 25, verset 40, déploieront dans la prédication de l'Évangile un zèle sans précédent.
Et le roi répondant leur dira, « En vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. »
Ce que l'Église chrétienne, pendant ses siècles d'existence, n'a pas pu faire, sera accompli dans un temps relativement court par ses petits. L'Évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations. Matthieu 24, verset 14.
Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin.
Toute la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Voir Ésaïe 11, verset 9.
On ne fera pas de tort, et on ne détruira pas, dans toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer.
Et Habacuc 2, verset 14.
Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer.
Le conseil de Dieu a déjà pourvu pour nos jours à la prédication de l'Évangile, et non pas de l'Évangile du royaume, mais de l'Évangile de la grâce de Dieu et de la gloire de Christ. Acte 20, verset 24.
Mais je ne fais aucun cas de ma vie ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur, pour rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu.
Et 2 Corinthiens 4, verset 4.
Ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'Évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux.
Et comme il enverra les messagers de la fin, le Seigneur lui-même envoie aujourd'hui les vrais prédicateurs de l'Évangile. Comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés, demande l'apôtre. Il y a partout des sociétés de mission à l'intérieur du pays et à l'étranger pour l'Évangile, animées des meilleures intentions, toutefois elles ont toutes un mélange des choses humaines au droit souverain du Seigneur, qui seul peut donner et a promis de donner des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Éphésiens 4, versets 11 à 14.
Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer.
C'est lui, le Seigneur de la moisson, que nous devons prier d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais nous ne devons pas, nous-mêmes, former des ouvriers pour ce service. La parole et la volonté du Seigneur sont, à cet égard, bien claires. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un œil simple et d'un cœur soumis. Il est évident que ce sont des hommes qui doivent être messagers de l'Évangile. Mais ce n'est pas notre affaire de les choisir, ni en notre pouvoir de leur fournir les capacités nécessaires pour cela. Or, si Dieu, dans sa grâce, fait annoncer sa bonne nouvelle, quiconque l'entend est responsable de la recevoir et d'obéir à l'Évangile. Israël l'a-t-il fait? Hélas, non. Déjà Ésaïe dit avec plainte, « Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous ?» Ainsi la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu, versets 16 et 17. Et cette prédication a été faite à Israël. Les Juifs avaient entendu la parole de Dieu, mais ne l'avaient pas acceptée. Ils étaient donc sans excuse. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, certes, leur voix est allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités de la terre habitée, verset 18. De nouveau, l'apôtre tire la preuve de sa déclaration des propres écritures des Juifs, dont il se glorifiait. Le psaume 19, dans lequel se trouvent les paroles citées, parle de deux témoignages de Dieu, de sa création et de sa parole, l'un extérieur et général, l'autre intérieur est destiné à ceux qui possédaient la parole et les commandements de l'Éternel. Toutefois, ce n'est pas là le principal point que Paul veut soulever ici. Les païens ne possédaient pas la parole de Dieu, mais le témoignage de Dieu dans la création leur est aussi destiné. Le ciel, qui raconte la gloire de Dieu, n'était pas seulement sur Canaan. Le soleil, la lune et les étoiles, ainsi que les autres merveilles de la création, n'étaient pas destinées à un seul peuple. Le témoignage rendu par la création était tout à fait général et s'adressait aux païens aussi bien qu'aux juifs. Voir chapitre 1, verset 20.
Car depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, sa voix et sa puissance éternelle et sa divinité se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables.
Acte 14, verset 17.
Quoique cependant il ne se soit pas laissé sans témoignage, en faisant du bien, en vous donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles, remplissant vos cœurs de nourritures et de joie.
Israël pouvait mépriser les peuples païens, mais Dieu avait montré dès le commencement qu'il pensait aussi à eux dans sa miséricorde et voulait se faire connaître à eux. Mais je dis, Israël n'a-t-il pas connu ? Certes, ils auraient pu le connaître. Cela ne devait pas être un mystère pour eux, car Dieu leur avait, comme l'apôtre le montre plus loin, parlé encore beaucoup plus clairement que par le psaume 19. Moïse le premier dit, « Je vous exciterai à la jalousie par ce qui n'est pas une nation. Je vous provoquerai à la colère par une nation sans intelligence. » Verset 19. Leur législateur estimé avait ainsi déjà parlé de l'intention de Dieu d'exciter son peuple Israël à la jalousie par ses pensées de grâce envers ce qui n'est pas une nation, et une nation sans intelligence, allusion claire aux païens. Mais encore plus, Ésaïe, le plus grand de leurs prophètes, s'était même enhardi à dire que Dieu voulait que ceux qui ne le cherchaient point le trouvent, et qu'il se manifesterait à ceux qui ne s'enquéraient point de lui, tandis qu'il l'avait dit d'Israël, tout le long du jour, « J'ai étendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant. » Versets 20 et 21. Ainsi donc, par la loi, les psaumes et les prophètes, les trois grandes divisions de l'Ancien Testament, la preuve était faite qu'Israël s'endurcirait et que Dieu, dès le commencement, avait décidé d'être miséricordieux envers les nations. Et cette preuve était irréfutable. Aucun juif sincère ne pouvait s'y soustraire. Or, qu'en résultait-il? Est-ce que Dieu s'était définitivement détourné de son peuple? Nous trouverons la réponse détaillée à cette question dans le chapitre 11.